Bonjour à tous. Voici la première prédication d'une série de quatre. Je vous propose ce matin de nous identifier à un personnage biblique mystérieux. Non qu'elle soit mystérieuse en soi, mais parce que la Bible nous parle peu d'elle. Ce qui nous intéresse, c'est la foi de ce personnage et ce que cela a impliqué dans sa vie. De qui suis-je en train de parler ? Après avoir vu l'ange de l'Éternel, Marie se mit en route pour aller de Nazareth chez sa cousine Élisabeth, dans les montagnes de Juda. C'était un voyage de quelques jours, mais Marie avait compris que Dieu l'y appelait. L'entrevue de ces deux femmes est remplie de la présence du Seigneur. L'une, toute jeune, porte le Rédempteur. L'autre, dans l'âge mûr, porte son précurseur. Le Saint-Esprit leur inspira leurs premières paroles que je vous invite maintenant à retrouver dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1. Je lirai des versets 46 à 55. Je lirai dans la version Semeur. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, du verset 46 au verset 55, qui nous dit ceci. Alors Marie dit: mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches, les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Nous diviserons ce texte en trois, puisque il cible trois personnages ou types de personnages envers qui Dieu fait grâce. Marie, les faibles et son peuple. Dieu fait grâce à Marie. La première chose à dire concernant Marie, et sans doute la chose la plus importante concernant ce personnage biblique, c'est qu'elle a une grande foi envers Dieu. Elle a une fidélité sincère envers lui. Toutefois, était-elle meilleure que les autres ? Était-elle meilleure que nous ? Je ne le crois pas. Mais admettons-le. Peu d'entre les juifs de son époque et les chrétiens de la nôtre peuvent se vanter d'avoir une telle fidélité. Il est assez surprenant de lire qu'elle accepte son rôle avec soumission et sérénité, quand on sait ce que cela devait signifier pour elle. Par son engagement, elle mettait entre les mains de Dieu sa réputation, puisqu'une femme enceinte et non mariée était très mal vue, chose relativement courante chez les prostituées. Et je ne parle pas de la rumeur d'adultère envers Joseph. Marie mettait son corps au service de l'œuvre de Dieu. Tout son être loue le Seigneur. Son âme, son esprit et son corps s'abandonnent dans une dépendance totale envers son Dieu. Marie, qui connaît les textes de Moïse, reconnaît ici la promesse de Dieu, la venue d'un Messie. Et cette promesse allait s'accomplir à travers elle. Dans sa louange, Marie donne à Dieu deux noms. D'abord, celui de Seigneur. Ce nom se retrouve sans cesse dans les textes de Luc. C'est un nom tout à fait commun. Et ensuite, elle le nomme mon Sauveur. Sa foi lui permet de voir plus loin que le moment présent et s'étend jusqu'au salut du monde offert par le sacrifice de l'enfant qui grandit dans son ventre. Marie déclare « Mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur ». C'est ce même esprit qui lui permet de comprendre l'instant présent et de comprendre les événements à venir. L'Esprit de Dieu lui fait prendre conscience de son besoin d'être sauvé. Et ce travail de l'Esprit est le même en nous aujourd'hui. Marie nomme Dieu son Sauveur, car l'enfant qu'elle portait dans son corps sauverait le monde du péché. Alors, il est important de préciser une chose. Dieu n'a pas choisi Marie parce qu'elle était belle, parce qu'elle était forte ou sans péché. Il ne l'a pas choisie parce qu'elle arriverait au terme de sa grossesse. Non. Dieu, avec sa connaissance de tout, est capable d'accomplir son œuvre malgré nos défauts. Combien de fois Dieu a su communiquer le salut malgré les défauts de ceux qui annoncent l'Évangile. Mes parents m'ont enseigné la capacité de Dieu à écrire droit sur des lignes courbes. À écrire droit sur des lignes courbes. Marie est consciente du péché en elle. C'est à cause de celui-ci qu'elle éprouve le sentiment d'être indigne d'un si grand honneur. Pourtant, elle accepte son rôle, car elle sait que Dieu est capable d'accomplir son œuvre malgré son péché et de l'utiliser pour bénir sa création. Marie est lucide. Ses nombreuses bénédictions ne viendront pas d'elle, mais de l'enfant qu'elle porte. Elle ne se voit pas comme conférant elle-même des bénédictions, mais comme une femme bénie par les autres. Aujourd'hui, les bienheureuses, c'est vous, mesdames. Et les bienheureux, c'est vous, messieurs. Vous qui, tout comme Marie, avez choisi d'être fidèle à Dieu. Vous qui avez une foi vivante avec votre Sauveur. Dieu fait grâce aux faibles. Une chose me frappe dans l'introduction de ce cantique. Marie se présente comme étant l'humble servante de Dieu. Le dictionnaire nous donne comme définition du mot « humble » qui a conscience de ses limites, de ses faiblesses, qui est d'un caractère simple, modeste, sans prétention. Si Dieu a choisi Marie afin qu'elle ait l'honneur de donner le jour au Messie, c'est qu'il rejette toute idée de grandeur humaine. Dieu a choisi la faiblesse afin de révéler sa force. Tandis qu'il aurait pu choisir une reine puissante, une femme riche, une starlette de la télé-réalité. Il choisit l'humble servante, la femme simple et modeste, qui connaît ses faiblesses dues au péché. Tout cela pour une raison très simple. C'est la foi qui permet de voir les grandeurs de Dieu. Non l'argent, la puissance ou la réputation. Toutes ces choses alimentent notre orgueil, notre désir d'indépendance. Dieu décide d'élever le faible et d'abaisser le fort, d'enrichir le pauvre et d'appauvrir le riche. La véritable force et la vraie richesse se trouvent en Dieu. Dans ce paragraphe, nous observons que Dieu corrige les déséquilibres provoqués par le péché. Toutefois, vous me direz, les déséquilibres existent encore aujourd'hui et se creusent de jour en jour. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et nous le voyons dans notre propre pays, tout comme dans les autres. Notre époque prouve que les écarts se creusent. Et pourtant, plus nous nous rapprochons de Dieu par la foi, plus il est richesse et force envers celui qui l'adore. Dieu aura toujours un grand plaisir à prendre un soin particulier envers ceux qui l'acceptent. Et ceci ne date pas d'hier, car sa bonté s'étendra d'âge en âge. Marie en avait conscience. Depuis que le monde est monde, toute créature qui regarde en Dieu y trouve de nombreuses bénédictions malgré sa condition terrestre. À l'inverse, celui qui cherche la grandeur ailleurs qu'à travers la foi se rend lui-même pauvre et faible. C'est en cela que l'équilibre se fait. L'homme le plus puissant parmi les hommes n'est rien face à Dieu. Et l'humble servante s'avère être, grâce au Seigneur, bien plus puissante. Dans son cantique, Marie chante les transformations causées grâce à la venue du Messie qu'elle porte. Dieu fait grâce à son peuple. Comme je le disais un peu plus tôt dans ma prédication, Marie connaît les textes de Moïse et l'histoire des Hébreux. Elle connaît les promesses de Dieu faites envers son peuple, malgré ses inconduites. C'est parce qu'il y a eu inconduite que Dieu leur a promis de leur envoyer un sauveur. Malgré les écarts du peuple juif, Dieu annonce à travers ses prophètes qu'un reste subsistera. Ce reste de fidèles incarne le vrai Israël. L'Éternel, voyant le vrai Israël qui sert, qui craint, qui aime Dieu, accablé sous le joug du péché, s'est chargé de lui-même d'accomplir sa délivrance. Le Messie tant attendu vient pour secourir son peuple. Il a pris sa cause. Toutefois, nous le savons, bon nombre de Juifs attendaient à l'époque un libérateur, un combattant qui affronterait la domination romaine sans se rendre réellement compte que le combat ne se trouve pas dans l'arène, mais dans nos cœurs. Dans cette délivrance de la condamnation, Marie voit la fidélité de Dieu, qui se souvient de sa miséricorde envers Abraham et ses descendants. L'avantage, avec un Dieu éternel et qui ne change pas, c'est qu'il tient sa parole. Même une parole faite des siècles plus tôt. Marie se considérait comme membre du reste d'Israël, qui subsiste dans la fidélité et qui sert l'Éternel. Sinon, aurait-elle accepté d'engager son corps, son âme et son esprit au service du Très-Haut? Jésus est le parfait ambassadeur de ce reste peu nombreux qui subsiste dans la fidélité. C'est à partir de lui, et grâce à sa bonne nouvelle, offerte à tous, que le vrai Israël retrouvera plus tard de l'élan et deviendra innombrable. Par l'enfant que Marie portait, Dieu accomplirait toutes les promesses qu'il avait faites à Abraham. Nous sommes aujourd'hui Israël. Nous sommes ce reste qui subsiste dans la fidélité. Et nous sommes bien plus nombreux que nous pouvons parfois le penser. C'est à travers la foi de Marie qui, avec fidélité, a accepté d'être l'humble servante qu'aujourd'hui nous sommes tous bénis. Dieu fait de nous un peuple fort. Dieu fait de nous un peuple riche, un peuple d'élus innombrables qui le sert avec fidélité. La toute-puissance de l'Éternel s'est déployée dans l'incarnation du Messie, à travers qui il fait éclater sa miséricorde envers nous, son peuple. J'en viendrai à la conclusion. Dans l'introduction de cette prédication, je parle de Marie comme d'un personnage mystérieux. J'aimerais compléter cette remarque. Parce que le catholicisme a peu à peu ajouté d'autres titres à Marie, tels que Mère de Dieu et Reine du Ciel, les protestants ont réagi en gardant un silence parfois exagéré sur ce personnage étonnant. Marie est un personnage admirable, un modèle de foi. Mais n'était-elle pas comme nous, dans le besoin d'être sauvée? Bien que les textes bibliques nous parlent peu d'elle, ce qui saute aux yeux à la lecture de ce cantique, c'est la foi de cette jeune fille qu'elle aura malgré les épreuves, qu'elle traversera suite à la naissance de Jésus. Jésus, comme Jean-Baptiste, son précurseur, mourra dans la trentaine, dans des circonstances tragiques, l'un décapité, l'autre crucifié. Élisabeth et Marie ont beaucoup souffert. Est-ce là le destin réservé à ceux et celles qui s'engagent dans la fidélité? Je vous le dis, de cette souffrance est sortie d'innombrables bénédictions. Nous sommes ces bénédictions, puisque c'est en partie dû à la foi de Marie qui a accepté de souffrir les douleurs de l'enfantement que le Messie voit le jour et sauve nos âmes. Amen.